C'est dans les années 1990 qu'un industriel visionnaire, Richard Knight, décide de fonder la Cité des Rêves. Dans un monde qui sombrait dans le chaos, Knight imagine une métropole exempte de crimes, de pauvreté et de corruption, et les riches corporations vont alors l'aider à concrétiser ses idées en investissant dans ce qui allait devenir la Cité Libre de Night City. Bien que Richard Knight ait été assassiné et que de nombreuses générations en quête de gloire, fortune et liberté aient subi leur propre série de déconvenues, le statut légendaire de la ville perdure. Night City a tout, des gratte-ciels monumentaux de corporations aux villas luxueuses de stars internationales, en passant par les quartiers sans foi ni loi, rangés par les affrontements civils. On y croise des mercenaires, des gangs et des rockers célèbres, mais aussi des drogués, des clochards et même des cyberpsychos. On y réalise ses rêves ou on meurt en essayant. Durant la deuxième moitié du 21e siècle, les méga-corporations sont eux des mastodontes internationaux de la finance. Elles ont leurs propres objectifs politiques et s'engagent dans des conflits plus ou moins ouverts avec leurs concurrents. Arasaka, Militech, Kengtao ou Biotechnica, on peut dire sans exagérer que les corporations façonnent la réalité et la vie des gens ordinaires. C'est au cours de cette période chaotique et déchirée par de violents conflits internes que les États-Unis d'Amérique ont fini par s'effondrer en un pot pourri d'États belligérants et de tentaculaires territoires abandonnés. La catastrophe étant devenue la norme, ces États se sont rassemblés sous une nouvelle bannière, celle des nouveaux États-Unis d'Amérique, appelée NUSA. Dans cette ère de progrès industriel et scientifique, l'humanité a peu à peu cédé la place à la technologie, et il est pour ainsi dire rarissime, voire impossible, de croiser aujourd'hui quelqu'un à Night City qui ne posséderait pas d'implant cybernétique, évidemment fourni par les corporations. Ce qui a donné lieu à une nouvelle forme de dépendance, au chrome pour certains et à la médication nécessaire pour d'autres, menant à l'apparition de la cyberpsychose, un terme générique englobant tous les troubles psychotiques et anxieux de la personnalité causés par l'implémentation de matériel dans le corps. Night City est ainsi enfermé dans tout un panel de lobbies et de marchés financiers corrompus qui l'alimentent, en plus de renforcer les inégalités et la pauvreté, bien loin de l'idyllique Cité des Rêves imaginée à l'origine par Richard Knight. C'est dans ce contexte que vous incarnez Vincent, alias V, un mercenaire qui sera selon votre choix un ancien nomade ayant quitté son clan, un gamin des rues de Night City ou un corporatiste licencié et retombé en bas de l'échelle. Quoi qu'il en soit, V tombera rapidement sur Jackie Wells, un mercenaire comme lui, ancien membre du gang des Valentinos et avec qui il va faire les 400 coups. Ce qui va leur permettre d'attirer l'attention de l'un des fixeurs les plus influents de Night City, Dexter DeShone, ou comme Jackie l'appelle, le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. DeShone propose un contrat en or à Jackie et V, voler à Arasaka, la plus puissante corporation de Night City, une technologie appelée Relique. Composant du programme Protéger votre âme, il s'agit d'un projet visant à numériser la psyché humaine sous la forme d'un engramme ou construct pour la transférer dans une biopuce. Si cette technologie est pour l'instant réservée à l'élite de Night City, nul ne sait quelles sont ses véritables implications, ni ce qu'Arasaka a véritablement en tête la concernant. Un contrat en tout cas très risqué pour V et Jackie et qui demandera une certaine préparation. Il faudra d'abord se frotter au Maelstrom, un gang de fanatiques du chrome qui détiennent le Flathead, un robot espion. Mais surtout, V devra entrer en contact avec la cliente, Evelyn Parker, qui semble en savoir un peu plus sur la relique. On apprend ainsi que la relique est actuellement en possession de Yorinobu Arasaka, le fils de l'empereur Saburo Arasaka, avec qui il est en conflit depuis plus de 20 ans. Yorinobu avait quitté l'empire familial pour créer son propre gang de Yakuza, les Dragons d'Acier, mais il est finalement revenu la queue entre les jambes, suppliant son père de le pardonner. Yorinobu entend maintenant trahir son père en lui volant la relique pour la revendre à Netwatch, firme chargée de la protection du cyberespace. Une fois les préparatifs terminés, V et Jackie pénètrent le Compeki Plaza pour infiltrer le penthouse de Yorinobu et lui subtiliser la relique. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, puisque Saburo arrive sur les lieux pour enfin régler ses comptes avec son fils. Le reste appartient à l'histoire de Night City.
Code rouge déclenché. Votre attention. Le Compeki Plaza a été placé en alerte rouge.
Saburo assassiné par son propre fils, il est temps pour Jackie et V de fuir le Compeki. Mais Jackie est grièvement blessé. Tout comme la relique d'ailleurs, ce qui oblige Jackie à l'introduire dans son propre port neural. Lui et V parviennent à s'enfuir tant bien que mal, et non sans avoir croisé la route de Adam Smasher, garde du corps de Yorinobu et nouvellement chef de la sécurité d'Arasaka. V pense avoir réussi, et alors qu'ils sont en route dans leur taxi de la Main pour aller rendre des comptes à Dexter de Shawn, V comprend que Jackie est en train de rendre son dernier souffle.
Now. Mr. Wells' condition is critical.
Go!
Immediate medical help is required.
Just hold on. Hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh?
I'm sorry.
Chip Dex.
Every corporal cop in this city is gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this cocksucking attention, damn it.
Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.
Alors que V vient de se prendre une balle dans la tête, le construct présent sur la relique et qu'il avait dû s'introduire après la mort de Jackie s'anime et lui redonne vie, ce qui nous permet d'avoir un court aperçu de la vie de celui qui l'habitait, Johnny Silverhand. Johnny n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un rocker boy célèbre et d'un terroriste notoire, qui avait fait sauter la tour Arasaka il y a 50 ans de cela, un événement que V va revivre via ses souvenirs. Accompagné de Shaitan, Rogue et Spider Murphy, Johnny parvient à s'introduire dans la tour pour y déposer la bombe et infecter le sous-réseau d'Arasaka avec un virus. Alors qu'il prend la fuite, il est stoppé dans sa course par Adam Smasher, le même Smasher que celui croisé par V un peu plus tôt. Entre la vie et la mort, Johnny est transporté dans un autre complexe d'Arasaka, où il fera face à Saburo et au tueur d'âmes, logiciel qui transférera sa conscience dans la relique.
つつましさがある。 始めろ。
V se réveille et tente de s'extraire des décombres, quand Goro Takemura, le garde du corps de Saburo, décide de lui venir en aide. Takemura est à la recherche des voleurs du Konpeki Plaza et souhaite rétablir la vérité sur les actes de Yorinobu envers son père. Après une course-poursuite effrénée, Takemura parvient à ramener V auprès de Victor Vector, son charcutoc, qui peut enfin l'examiner. Victor avoue tout à V. Avec l'engramme de Johnny Silverhand dans sa tête, il ne lui reste que 2 semaines à vivre. Peu de solutions s'offrent à lui. Lutter et trouver un moyen de retirer le construct, laisser son corps à Johnny ou mettre fin à ses jours. À compter de cet instant, l'histoire de Cyberpunk va principalement tourner autour de la relation entre V et Johnny et sur comment ils vont réussir à surpasser leurs différences pour atteindre un objectif commun. La fin justifie-t-elle les moyens ? Il y a évidemment d'autres thématiques explorées dans Cyberpunk, comme le transhumanisme ou notre rapport à la sexualité, mais c'est selon moi celle-ci qui est majoritairement véhiculée par le jeu. Pour Johnny, il est acceptable de sacrifier quelques personnes pour en sauver des millions. Mais qu'en est-il pour vous ? Camperez-vous sur vos positions ou chercherez-vous à comprendre le passé et les motivations de Johnny qui l'ont poussé à faire exploser la tour Arasaka en 2023 ?
Écoute, je suis flatté. J'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie et qui peut nous aider. Toi, on t'enlève la puce et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi.
Takemura reprend contact avec V et souhaite établir un plan d'attaque. 3 options s'offrent alors à V. Retrouver Evelyn Parker et tenter de déterminer qui l'avait engagé et pourquoi. La deuxième consiste à mettre la main sur l'ingénieur de la relique, Anders Hellman, et lui soutirer des informations. Et la troisième, prônée par Takemura, serait d'entrer en contact avec Anako Arasaka, la sœur de Yorinobu et fille de Saburo. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver Evelyn, ce qui va amener V à coopérer avec Judy Alvarez, une éditrice de danse sensorielle. À eux deux, V et Judy vont réussir à mettre la main sur ceux qui avaient embauché Evelyn, les Voodoo Boys, un gang de netrunners opérant à Pacifica et mené par Maman Brigitte, leur leader. Pacifica était un quartier destiné à devenir le plus florissant de Night City, une réinterprétation de Las Vegas à son apogée. Mais quand la guerre d'unification a éclaté, Pacifica a été abandonné de tous, à l'exception de la communauté haïtienne locale, désormais menée par les mêmes Voodoo Boys.
Le grand Imperial Mall. Le plus grand temple de l'avarice dans Pacifica, et aussi le plus laid. Jamais achevé. Jusqu'à la semaine dernière, il était abandonné. Vide.
Mais avant de pouvoir rencontrer Maman Brigitte, V va devoir gagner la confiance de Placide et infiltrer le GIM, le Grand Imperial Mall, pour se frotter aux Animals, un autre gang. Placide court après des données qui lui permettront de mettre la main sur les agents de Netwatch dans la région qui en ont après les Voodoo Boys. Ce faisant, V permettra à Maman Brigitte de se libérer du cyberespace et après quelques révélations sur la relique, elle le guidera dans les souterrains de Pacifica, le long du réseau Maglev, un réseau de transport à l'abandon et base d'opération des Netrunner Voodoo Boys. Maman Brigitte explique alors à V pourquoi elle s'intéresse à la relique. Elle cherche à entrer en contact avec Alt Cunningham, une Netrunner devenue une IA rebelle et aujourd'hui cachée derrière le mur noir. Mais pour comprendre tout ça, il nous faut revenir quelques années en arrière. Au cours du 21e siècle et au milieu des conflits entre les différentes corporations, il était inévitable que le net, le cyberespace et les intelligences artificielles se développent, des outils cruciaux dans la guerre de l'information. Un contexte dans lequel sont apparus les Netrunners, capables de plonger dans le cyberespace au travers de leurs prises crâniennes et de pénétrer par exemple les forteresses de données des corporations. Un netrunner qualifié peut aujourd'hui faire bien plus de dégâts que n'importe quel soldat sur le terrain, et encore plus quand on parle du plus puissant d'entre eux, Rage Barthmos. Barthmos a provoqué la fuite de données corporatistes la plus massive du 21e siècle, à tel point qu'on lui a donné le nom de Data Crash, libérant ainsi de nombreuses IA rebelles dans le cyberespace. En réaction, les corporations intronisent Netwatch, une police du net chargée de rétablir le cyberespace fragmenté et à l'origine du mur noir, une barrière censée bloquer les hackers et les IA rebelles susceptibles de menacer les corporations. Tout ce qui se trouve derrière le mur noir est aujourd'hui considéré comme un darknet inaccessible et potentiellement très dangereux. Si Maman Brigitte a besoin de la relique et du construct de Johnny Silverhand pour accéder à Alt Cunningham, c'est parce que Johnny et Alt étaient amants, et c'est en pénétrant le cyberespace à l'aide des Voodoo Boys que V va plonger une nouvelle fois dans le passé de Johnny. Alt Cunningham était une netrunner de talent, peut-être même plus que Rage Barthmos, et c'est elle qui est à l'origine du programme Tueur d'âmes ayant donné naissance à la technologie relique. Un projet qui n'a pas été conçu, mais volé par Arasaka, qui cherchait bien sûr à mettre également la main sur sa créatrice. C'est au cours d'une ultime soirée avec Johnny que Alt est enlevé par Arasaka et choisit alors de fuir pour l'éternité dans le cyberespace. Ainsi, on comprend mieux les motivations de Johnny. L'attaque de la tour en 2023 n'était pas motivée que par la rébellion ou des principes, mais surtout par son amour pour Alt, le virus déposé sur le sous-réseau d'Arasaka lui ayant permis de fuir au-delà du mur noir. Ironie du sort, 50 ans plus tard, c'est une version numérisée de Johnny Silverhand qui va permettre à V d'entrer en contact avec une version numérisée de la plus puissante netrunner de Night City, Alt Cunningham.
Concrètement, tu peux faire quoi pour moi?
Avec le tueur d'âmes intégré dans Mikoshi, je créerai un construct de toi, puis je démêlerai ton réseau neural de celui de Johnny. Ensuite, je réinjecterai ton engramme dans ton enveloppe charnelle.
Pour rappel, je suis régulièrement en stream sur Twitch, donc si par exemple tu veux suivre avec moi la découverte du DLC Phantom Liberty de Cyberpunk, eh bien n'hésite pas à me trouver sur Twitch sous le pseudo LoudicTV. Difficile de dire si après toutes ces années passées derrière le mur noir, Alt Cunningham possède encore une once d'humanité. Mais en tout cas, si V souhaite qu'elle lui sauve la vie et retire le construct de Johnny, il va falloir infiltrer Mikoshi, le complexe où se trouve le programme Tueur d'âme. Mais avant ça, V doit mettre la main sur Anders Hellman, le concepteur de la relique. Pour ce faire, il entre en contact avec Rogue, ancienne partenaire de Johnny et la meilleure fixeur de tout Night City. Elle fera en sorte que V fasse équipe avec Panam Palmer, une nomade du clan des Aldecaldos qui n'a pas sa langue dans sa poche. A eux deux, V et Panam vont réussir à intercepter un convoi de Kang Tao qui protégeait Anders Hellman depuis sa fuite d'Arasaka, puis vont enlever l'ingénieur pour que V puisse l'interroger. Alors qu'il examine la relique, Hellman annonce à V que selon lui, il n'existe aucun moyen de retirer le construct de Silverhand et la puce sans mettre fin à ses jours. Mais pour V, le temps presse, il se sent de plus en plus faible et la mort approche à grands pas. Il récupère les plans de la relique auprès de Hellman et rappelle alors Takemura pour mettre au point un plan visant à entrer en contact avec Anako Arasaka, la fille de Saburo.
Mais je me souviens de cette bombe que t'as fait sauter en plein centre-ville. Sans hésiter, sans remords.
C'est Mikoshi que je visais. Je voulais la détruire. J'ai laissé assez de temps à Arasaka pour évacuer le bâtiment.
Tu savais qu'un tas de gens allaient mourir. Fais pas semblant.
Toi aussi, t'as pris un paquet de vie. Tu crois que c'est le nombre le problème?
C'est vrai. Peut-être qu'on se ressemble.
Non, on est différents. Ce jour-là, dans la tour Arasaka, j'ai eu aucun doute, aucun regret.
Tu peux dire ça si tu veux. mais je sais très bien que c'est faux.
Après une rencontre avec la fixeur Wakako Okada, V et Takemura estiment que le meilleur moment pour frapper sera le défilé organisé à Kabuki en l'honneur de la mort de Saburo Arasaka, et au cours duquel Hanako fera un discours en public. Après s'être débarrassé de la Netrunner surveillant la zone et de Oda, le garde du corps de Hanako, la voie est libre pour Takemura qui peut enfin s'entretenir avec elle. Malheureusement, Hanako n'est pas prête à coopérer et Takemura se voit obligé de la paralyser pour l'emmener dans une planque secrète. Alors que V les rejoint et qu'il dévoile à Hanako les crimes perpétrés par son frère, cette dernière reste muette. La planque est alors attaquée par Arasaka qui tire sans sommation et sans même s'inquiéter de toucher Hanako. V et Takemura parviennent à s'en sortir indemnes mais de peu et ils doivent se séparer. Alors que V rumine avec Johnny dans un motel miteux, il est contacté par Hanako via un proxy. Cette dernière dit avoir ouvert les yeux sur les agissements de son frère et souhaite maintenant le rencontrer. C'est dans un building non loin de la tour Arasaka que la rencontre entre V et Hanako se joue, entourée d'un bon nombre de gardes du corps et alors que V commence à tenir à peine debout. Hanako avoue alors à V qu'elle était au courant depuis le début pour Yorinobu et le meurtre de son père. Elle a simplement voulu sauver les apparences, bien que Yorinobu s'en soit pris à son père, car de ses propres mots, la famille est plus forte que tout pour les Arasaka. Mais voyant que son frère a été capable d'attenter à ses jours, Hanako se voit dans l'obligation de réagir et de mettre fin aux agissements de Yorinobu pour le bien d'Arasaka et l'héritage de son père. Le plan qu'elle propose à V est le suivant. Au cours d'un conseil d'administration devant se tenir sous peu, il servira de témoin et d'élément déclencheur à la destitution de Yorinobu. Une fois qu'il aurait remis les plans de la relique, Hanako s'assurerait qu'il ait un accès à Mikoshi, la prison des âmes sous la tour Arasaka.
Je t'avais prévenu.
Et qu'est-ce que tu fous ?
Ce que je fous ? C'est simple, je te montre ce que ça fait de se sentir piégé. Je te l'ai demandé, je t'ai prévenu, mais t'as continué à t'en foutre. Et maintenant, cette connasse de riche va se servir de toi pour ses magouilles de merde.
Va chier. J'ai pas encore dit oui que je sache.
Ouais, mais je sais que t'as toujours pas pigé comment fonctionnent ces sangsues. Vous vous êtes rencontrés, face à face. Elle t'a dévoilé ses plans. Elle a planté ses griffes dans ta tête. Et ça va être galère pour t'en débarrasser.
L'heure des choix a donc sonné pour V, les choix qui définiront la fin de son histoire. Comme on pouvait s'en douter, Johnny est plutôt réticent à l'idée de s'allier avec Arasaka. Plusieurs possibilités vont alors s'offrir à V. La première, la plus simple, est de mettre fin à ses jours avec une balle dans la tête. Un renoncement, certes, mais au moins une décision qui n'entraînera pas de victimes collatérales. Deuxième choix possible, demander l'aide de Panam et des nomades Aldecaldos. Le plan sera alors de creuser un tunnel sous Night City pour atteindre Mikoshi. Ce faisant, V et Panam croiseront la route de Adam Smasher, venu pour en découdre, ce qui signifiera la fin de Sol, chef des Aldecaldos. V laisse le contrôle de Mikoshi à Alt Cunningham, qui lui annonce alors la même chose que ce que lui avait dit Hellman. La relique ayant supplanté ses fonctions cognitives, il est impossible de lui sauver entièrement la vie en retirant le construct de Johnny. Deux nouveaux choix s'offrent alors à V. Conserver son corps, laisser Johnny rejoindre Alt derrière le mur noir, fuir Night City avec les Aldecaldos et profiter des 6 mois qui lui restent à vivre. Ou alors choisir de laisser son corps à Johnny et rejoindre le cyberespace pour l'éternité. Une autre option s'offrait à V, celle de faire appel à Rogue pour un ultime assaut sur la tour Arasaka et laisser le contrôle de son corps à Johnny pour cette dernière mission. Johnny, Rogue et Wayland s'écrasent alors en navis au beau milieu de la tour et affrontent les forces d'Arasaka. Nouvel affrontement contre Smasher, mais cette fois, c'est Rogue qui se sacrifie. Comme précédemment, Alt s'empare de Mikoshi, mais cette fois, c'est Johnny qui a le poids du choix entre les mains. Garder le corps de V ou le laisser profiter des 6 mois qui lui restent, Ce faisant, V deviendra le boss de l'Afterlife, le Merc qu'il a toujours rêvé d'être, et embarquera pour une ultime mission sur le Crystal Palace, une station lunaire. Enfin, dernière option pour V, la moins satisfaisante mais peut-être la plus intéressante en termes de scénario, accepter de s'allier à Hanako Arasaka. V embarque alors dans une mission aux côtés de Takemura et Anders Hellman pour sauver Hanako des griffes de Yorinobu. Une fois rendu à la tour, Hanako annonce la vérité à V. Saburo Arasaka est toujours en vie, protégé sous forme d'engramme à l'intérieur de Mikoshi, et prêt à ressusciter. Hanako et V se rendent au conseil d'administration et tentent de destituer Yorinobu, mais ce dernier lance une ultime attaque. V et Takemura se voient obligés de riposter et s'engagent dans un combat à mort avec Adam Smasher.
Ça, vous en aurez pas besoin.
Il ne reste qu'une balle. Elle n'est pas pour vous. Regardez. Que voyez-vous ?
Un type qui a perdu.
Rien qu'un seul ? J'en vois des millions.
Yorinobu est là, au sol, défait, et Hanako arrive pour insérer la puce contenant l'engramme de Saburo dans le port neural de son frère et lui redonner vie. V s'enfonce dans les profondeurs de Mikoshi avec Hellman quand il s'effondre soudainement. V se réveille dans une station spatiale de Arasaka, orphelin de Johnny, et ne sachant plus réellement qui il est. Arasaka mène des expériences sur lui visant à déterminer si l'opération a été ou non un succès. À la télé, on annonce la résurrection de Saburo, sous les traits de son fils. Takemura avoue alors à V que l'opération n'a pas vraiment fonctionné et que la seule solution qui lui reste est d'accepter d'être stocké sous forme d'engramme dans Mikoshi. Un choix final se présente alors à V, retourner sur Terre et profiter du temps qui lui reste ou signer le contrat d'Arasaka et rejoindre Mikoshi sous forme numérisée.
I wouldn't be alive if it wasn't for you.